Les amis, shalom, les koulam et boker tov. Nous allons parler aujourd'hui de Hanouka, mais nous allons parler de Hanouka de manière un petit peu particulière. Pourquoi de manière un petit peu particulière? Parce que que nous allons essayer de faire durant notre petite étude de ce matin, c'est qu'on ne va pas faire une étude que sur Hanouka. En fait, nous allons parler des différents héros de notre histoire, des différents combattants de notre histoire, des soldats d'Israël, Bayamim Ahem, Obazman, Azé. C'est-à-dire qu'on va évidemment parler aussi de Hanouka, mais en fait, on va partir sur toute l'histoire juive et on va voir qu'il y a eu des héros d'Israël, comme nos soldats actuellement qui sont nos héros, qui sont nos modèles, qui sont nos Kohanim Kedoshim de notre génération. Donc, je vous propose qu'on aille maintenant en plein dans l'histoire d'Israël. C'est parti. L'histoire est pleine de vie à chaque époque. Son défi. Et rappelez-vous de cette phrase de Yigal Alon. Il disait un homme qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Allons-y. C'est parti. Donc, on a cinq grandes périodes dans l'histoire juive. La construction de l'identité d'Israël. Survivre à la destruction. Au fond de l'exil. Le réveil identitaire. Et la résurrection nationale. Les cinq grandes périodes telles que je les ai analysées. Alors, allons-y, c'est parti. La construction de l'identité. On va passer sur les petits films, voilà, parce qu'on n'aura pas le temps sinon. Donc, allons-y pour la première étape qui s'appelle la construction de l'identité. Quel est le premier héros d'Israël, le premier grand combattant d'Israël, les amis? Moshe Rabbeinu, vous connaissez cette statue de Moshe Rabbeinu, évidemment, la statue de Michel-Ange, de Moshe Rabbeinu avec ses fameuses cornes sur la tête. Vous voyez les cornes sur la tête? Parce qu'il a vu qu'il Karan Orpanav. Alors Karan Orpanav, lui, il a compris que c'était Keren, que c'était une corne. Donc on voit les cornes sur la tête de Moshe. Alors Moshe, c'est la centralité de la Emouna. Attention! Je ne suis pas en train de faire un récapitulatif des rabbins d'Israël. Non, 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 non. Je parle de Moshe, le combattant. Iné. Vayavoa Amalek, vayilachem im Israël, belfidim. Vayomer Moshe, Yoshua, bechar lanu anashim, vetseilachem ba Amalek. Machar, anochi nitzav al rosh ha-giva, umateh ha-elohim beyadi. Vayas Yoshua, kasher amar lo Moshe, leilachem ba Amalek. Umoshe, Aaron vechur, alu rosh ha-giva. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר המלאק, וידי משה כבידים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון ופור תמכו בידיו מזה ומזה אחד, והיא ידיו אמונה עד בו השמש. זה נגיע חוק המלאק, משה רבנו עבור יהושע, פר לקומבה, סולטרה, ומשה רבנו דוויין למה דו לאמונה. La Mishnah va poser la question en disant, mais enfin, Vechi Yadav Shel Moshe Osot Milchama, quoi, les mains de Moshe font la guerre? Comme si, parce que Moshe lève les mains, alors on gagne, et quand on baisse les mains, on perd, c'est magique. Et la Mishnah nous dit, mais non, quand Moshe lève les mains et que Am Israël regarde vers le ciel, alors, eh bien, ils se rattachent à Kadosh Baruch Hu et ça leur donne les forces de gagner la guerre sur le terrain. En d'autres termes, Moshe nous sert de base de la Emouna, notre combat est le combat qui est légitime et il est guidé par Akadosh Baruch Hu. Donc la première chose à faire lorsqu'on veut se battre, eh bien c'est ne pas oublier que nous sommes Malé Emouna. Ça c'est la première dimension. La première dimension c'est Emouna, Emouna, Emouna. Une fois qu'on a terminé ça, alors on peut passer à la deuxième étape. Le deuxième héros d'Israël, Yehoshua ben Nun, sans peur et sans reproche. Vous voyez cette petite image magnifique dans laquelle Yehoshua arrête la course du soleil. Oui, parce que je parle d'un Yehoshua qui va, après la mort de Moshe, devenir le chef du peuple juif. Et c'est lui qui a été choisi par Dieu pour conquérir la terre d'Israël. Alors que Moshe Rabbeinu montre que le peuple juif est capable de se battre avec sa Emouna, et avec ses armes, mais avec sa Emouna, eh bien Yehoshua va être celui qui va devoir conquérir la terre d'Israël. Az yedaber Yehoshua la Hashem. ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל, ואומר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלו היא כתובה לספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמיל, ולא היה כיום ארור לפניו ואחריו, לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. יהושע est le prochain dirigeant du peuple juif après Moshe. Il doit conquérir la terre d'Israël, et dans le premier chapitre du livre de Yoshua, Dieu va lui dire quatre fois « Hazak ve'emat ». Sois fort et sois vaillant, « Hazak ve'emat ». Pourquoi quatre fois? Eh bien, nous disent nos sages, « Je vais te donner quatre coups de main. » Quatre coups de main pour que la conquête de la terre d'Israël puisse se réaliser. Mais c'est à toi de la faire. Mais moi, je te donne quatre coups de main, quatre miracles qui auront lieu durant la guerre de Yoshua. La traversée du Jourdain, la Shemesh Begibon Dom, les pierres qui tombent du ciel, l'embourbement des chars ennemis. Mes amis, Yoshua va mener les combats sans peur et sans reproche. Car lorsque tu es Malé Emouna, eh bien, tu as la force de dire au monde de s'arrêter parce que nous sommes en train de nous battre. Moshe nous a montré le chemin en nous rappelant qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Yoshua concrétise cet enseignement en disant, eh bien très bien, puisque c'est comme ça, j'invoque l'aide d'Akadosh Baruch Hu au moment où je me bats. C'est pas j'invoque l'aide de Dieu et moi je suis à la maison au Beit HaMidrash. Non, ça c'est mal connaître Yoshua. Yoshua, il se bat sur le terrain et il dit « Ribono Shalom, c'est maintenant ou jamais, tu viens m'aider ou tu viens pas m'aider ?» Et si tu m'aides pas, je le ferai quand même. Mais viens, allez, avec nous dans la bataille. Hein? Moshe, c'est la théorie, Yoshua, c'est la mise en pratique. Alors une fois qu'on a terminé avec la conquête d'Israël, eh bien, on va pouvoir commencer à se poser la question du comportement de nos soldats. Nos soldats sont extraordinaires. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, nos soldats sont magnifiques. Mais la question, c'est d'où on sait que nos soldats sont si fantastiques? Eh bien, on regarde leur comportement. J'ai des questions extraordinaires qui m'viennent de soldats, de parents de soldats. Ils sont très... J'ai des parents qui m'ont appelé, ils sont extrêmement inquiets de si la neshama de leur fils sur le front va être perturbé ou pas. Et pourquoi? Parce que, eh bien, le fils leur a dit que, vous savez, papa, maman, quand on a deux secondes de répit, même pendant Shabbat, eh bien, on fume une cigarette. Et les parents étaient choqués. Ils m'ont dit, bah, attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Et je leur avais expliqué avant que, par exemple, pour la cacheroute, eh bien, on ne doit pas se poser la question dans Gaza de savoir si c'est cachère ou pas. Parce qu'on doit s'occuper, être prêt à 100% de la guerre. Eh bien, je leur ai dit, écoutez, moi je ne fume pas, je ne sais pas si c'est vraiment relaxant ou pas, mais si le fait de fumer une cigarette permet de rester focus sur la guerre, alors évidemment que c'est permis pendant Shabbat. De la même façon que c'est permis de se faire un café avec un koum-koum électrique pendant Shabbat, si c'est pour rester réveillé pendant la guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Et en fait, analyser les comportements de nos soldats aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on voit que nos soldats, c'est des tzadikim. Vous avez entendu depuis les deux derniers mois de la guerre, vous avez entendu beaucoup de cas de soldats d'Israël qui ont violé des belles captives, qui ont violé des Isha Yefat Tohar. Ben non, parce que nos soldats, c'est des tzadikim. Quand l'époque de la Torah elle a permis la belle captive en disant « Libra Torah keneged yetzerara ». Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement au-dessus de ça, on est tellement tzadikim, qu'il n'y a pas ça. Vous me direz peut-être que nos soldats, ils ne voient pas si elles sont belles ou pas, parce qu'elles sont voilées en entier. J'ai une grande question. Les amis, c'est pour ça qu'après Moshe et Yoshua, je vous amène chez Gidon, Ben Yorash, Ashofet. Et Gidon, il doit se battre contre Midian. Et il rassemble une armée incroyable. Seulement Dieu lui dit, mais non, mais cette armée, elle est beaucoup trop grande. Et en plus, elle est faite de gens qui ne sont pas prêts à se battre. Et donc, il va avoir une vérification. pour savoir qui peut participer à la guerre. Alors d'abord, Gidon dit, celui qui a peur, il rentre chez lui. T'en as plein qui rentrent chez eux. Et sur les 22 000 du début, il n'y en a plus que 10 000 qui sont là. Et après, Gidon va faire un deuxième test. Il arrive devant une rivière, enfin une rivière, une source, parce que là, le dessin, il montre une rivière, c'est plus une source, et à l'endroit qui s'appelle Ein Harod. Vous pouvez aller vous balader. Ein Harod, dans le nord d'Israël. Et là-bas, eh bien, alors que tout le monde a soif, il dit, allez boire. Et la vérification est simple. Celui qui se prosterne au sol pour aller pour boire de l'eau, eh bien, c'est celui qui a une tendance à se prosterner. C'est celui qui n'est pas celui qui représentera le peuple juif. Par contre, celui qui va se pencher, ramener l'eau à sa bouche, alors celui-là, eh bien, est celui qui est un être humain, qui ne se met pas au sol tel un chien, qui n'a pas l'habitude de se prosterner, qui comprend que c'est à lui de ramener l'eau à sa bouche, comme un homme qui n'est pas un animal qui se baisse la tête vers la nourriture, mais un homme qui élève la nourriture à lui. La grandeur morale de nos soldats, Gidon. Donc Moshe, la théorie, Yehoshua, la mise en pratique, Gidon, la valeur morale de notre identité, de nos soldats. Vashken Yerubal, ou Gidon, Vecholam, Asheritova, Hanouen, Al-Ein Harod, ou Machadem Idiana Yalno, Mitsafon, Migiva, Mourem, Migivat Amourem, Ahemek, Omer Hashem El Gidon, Rava, Asherita, Mititi, En Midian Beyadam, Pen, Yitpaer Alai, Israel Lemor, Yadi, Oshiali, Vata, Kirana, Beozneav Lemor, Miliare Bekaved, Yashov, Yitzpor, Maher El Gilad, Yashov, Binaav, Esrim, Ushtaim, Elef, ועשרת אלפים נשארו. ויאמר השם אל גדעון, עוד העם רב, הורד אותם אל המים, ואצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך. הוא ילך איתך. כל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוג בלשונו מן המים, כאשר ילוג הכלב תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על דרכיו לשתות, ויהי מספר המלקקים בידם על פיהם 300 איש. כל יתר העם קראו על ברכיהם לשתות מים. ואומר השם אל גדעון, ב300 האיש המלקקים הושיע אתכם. ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. Voilà, j'ai simplement lu les versets qu'on a expliqués ensemble. Donc, Moshe, Yehoshua, Gidon. Shimshon Agibor. Shimshon Agibor. Eh oui, vous connaissez cette chanson qu'on entend maintenant dans tous les camps militaires, dans tous les mariages en ce moment. Vous connaissez? Zochenina, Zochenina. Bachaskenina. Akapamaze. Aelokimakapamaze. Bon, alors Shimshon. Shimshon est celui qui se bat pour le peuple juif. Il est prêt à être seul dans le combat. Mais s'il est prêt à aller se battre seul, il ne partira pas seul. Il se battra pour l'honneur d'Israël jusqu'au bout. Et lorsque finalement il sera pris, trahi par les siens. Et il sera pris dans le temple à Gaza. Il ne demandera qu'une chose à Dieu. Aide-moi à ne pas mourir seul. Aide-moi à continuer le combat, même au moment où je pars. Je sais que mon combat à moi s'arrête. Mais il est hors de question que mon combat s'arrête sans battre mes ennemis. Et donc Shimshon demande à Kadosh Baruch Hu, Vaikra Shimshon el Hashem vayomar, Adonai Elohim zocheni na vechaskeni na hapam hazeh Elohim, veinakma nekam achad mishte enai mipelishtim. Veilpot Shimshon el shene amudei atavech asher habayit nachon aleihem, veisamech aleihem echad bimino veechad bismolo. Ve'omer Shimshon tamut nafshi im plishtim. וייד בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו, Rabim Meacher Emit Bechayav. Alors que Shimshon avait déjà réussi à tuer des centaines d'ennemis, il en tuera plus le jour de sa mort que durant toute sa vie. Shimshon est prêt à défendre l'honneur d'Israël quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Cette abnégation de nos soldats, on la retrouve aujourd'hui au quotidien. Bien sûr qu'on leur souhaite de tous rentrer sains et saufs, en bonne santé. Mais ils sont tous prêts à mourir pour l'honneur d'Israël, pour nous protéger, pour que nous, on puisse faire le cours ce matin. On leur doit tout, à nos soldats extraordinaires. Mon cher Rabbeinu, l'idéal de la Emouna. Yehoshua, fort de cette Emouna, j'invoque Akadosh Baruch Hu pour qu'il soit avec moi. Gidon dit ok, mais Akadosh Baruch Hu, il vient aider un peuple qui le mérite. Et nous sommes des soldats extraordinaires. Shimshon, je suis prêt, moi seul, à me battre pour l'honneur du peuple juif. Et après, on dit que les juifs ne sont pas capables de se battre. Vous avez entendu parler de cet homme-là? David, Melech Israël, Aïdikayam. Fais des chansons ce matin. David, Melech Israël, Aïdikayam. Celui qui n'abandonne jamais. Voilà ce verset de Tehilim que vous connaissez. C'est ce que dit David. Erdorf, Oivai, Versigem, Velo, Ashuv, Ad Kalotam. C'est ce que disent tous nos Milouim Nikim. C'est ce que disent tous nos réservistes. C'est ce que dit heureusement notre gouvernement. Je vais poursuivre mes ennemis et je les rattraperai et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas tous éclatés. Oui, il y a eu une trêve humaine, une trêve pour les otages. On est très, très, très heureux que tous les otages qui ont pu rentrer sont rentrés sains et saufs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter les combats. On va poursuivre notre ennemi et on les rattrapera et on ne rentrera qu'après les avoir éradiqués. Tout ça, on l'a appris de David. Mais en fait, David, il n'est pas tout seul. David, il puise la force de Shimshon, le discernement de Gidon, la vaillance de Yehoshua et l'idéal de Moshe. Donc, voilà les cinq grands personnages de la première partie de la construction de l'identité d'Israël que sont Moshe, Yehoshua, Gidon, Shimshon, David. Ouah, ça en fait des combattants. Et puis après David, nous avons un dernier personnage. Un dernier personnage qui marque le début de l'exil. Vous le connaissez cet homme, Mordechai. Eh oui, Mordechai à Yehoudi. Ah ah, attendez, Mordechai à Yehoudi. Mais Mordechai, il a une technique très particulière. Mordechai, d'abord, c'est un combattant. Je croyais que c'était un rabbin. Mais non, Mordechai, avant l'histoire de la Megillat Esther, il fait quoi dans la vie? Eh bien, nous dit le Midrash que Mordechai était général en chef des armées de Achashverosh. Regarde, Aman aussi, dans la guerre qui a opposé Achashverosh Assuérus, Terxet, aux Grecs, dans ce qu'on appelle les guerres médiques, eh bien, le combat mené aux Thermopyles, le combat mené par les Perses dans les gorges chaudes, aux Thermopyles contre Léonidas et ses 300 Spartiates, qui étaient en manque de chocolat, évidemment, Léonidas, eh bien, celui qui mène les Perses au combat, n'est autre qu'un général perse qui s'appelle Mardour. Mordechai. Eh oui, les amis. Mais sauf que Mordechai, pour réussir à protéger le peuple juif, puisqu'il va devenir le Mordechai que nous connaissons dans la Megillah, eh bien, il a dû d'abord s'infiltrer. Il a dû d'abord, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Se fondre dans le décor. Eh oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dit avec Moshe, Yehoshua, Gidon, Shimshon et David. Nahon. Mais quelle est la différence? C'est que Mordechai, c'est le début de l'exil. Mordechai, il n'est plus souverain. Mordechai, il est maintenant soumis au bon vouloir. Opa, au bon vouloir des Perses. J'étais un peu vite. Il est soumis au bon vouloir des Perses. Donc, quand tu es soumis au bon vouloir des Perses, ben, tu es bien obligé de trouver un stratagème. Et le stratagème, eh bien, c'est quoi? C'est de se faire passer pour un père pour finalement arriver à mettre en avant les intérêts du peuple juif. C'est évidemment pas un idéal, mais c'est une nécessité du moment. Attention, il ne s'agit pas de la taqiya musulmane. Il ne s'agit pas de se faire passer pour un perse pour finalement détruire l'empire perse. Non, 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 non. Il s'agit toujours d'avoir à l'esprit les intérêts du peuple juif. Pour pouvoir les protéger, il faut être dans des postes à influence. C'est tout. Ça ressemble à un, comment il s'appelait le chef de cabinet là, de Trump, Kushner, un bon Américain juif qui va pouvoir aider le peuple juif. Bon, des fois, il y a des juifs qui sont un peu trop imbriqués dans les gouvernements et qui oublient un petit peu d'aider le peuple juif. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça a l'air, donc ça, c'est Mordechai. Oui, mais il y a un moment donné, quand on est en exil, on a envie de ramener l'honneur du peuple juif. Et les amis, nous arrivons à notre Yehuda Maccabi, à notre histoire de Hanouka. Eh oui, les amis. Alors, on connaît l'histoire de Hanouka. J'avais moi-même fait un cours une fois, je pense que c'est. Puis c'est il y a 2 ans, 3 ans, sur l'histoire de Hanouka, sur pas un cours de Torah, mais uniquement l'historique des guerres menées par Yehuda Maccabi, de Hanouka, les guerres contre les Grecs, qui, comment, où, qui, combien. Yehuda Maccabi, vous savez ce qu'on fait jamais? Vous savez ce qu'on fait jamais? Eh bien, on fait jamais ça. On ne fait jamais ça. C'est-à-dire, on n'étudie jamais les textes de Yehuda Maccabi. On sait que c'est un grand combattant, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda Maccabi? Alors regardez. Ve'yagia Siron ad ma'ale bet Horon, ve'yetzel Yehuda likrato bimtemeat, ve'kirotam et ha'machaneh haba likratam, amru le'Yehuda, ech nochal anachnu ha'me'atim le'ilachem im ha'amon ha'chazak hazeh, ve'anachnu ha'yefim lo achalnu yom. Comment on va faire? On est peu nombreux, ils sont beaucoup trop. On n'y arrivera pas. Vayomer Yehuda, Nakel Kiyatsu Gero Rabim Bidel Meatim, Ve'en Ma'atzor Lifnei Shamayim Le'oshia Berabim O Bimeatim. Yoshua, il commence son discours. Yehuda commence son discours. Et il dit, nous gagnerons, on y arrivera. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune barrière devant les cieux. Et Akadosh Baruch Hu, il peut très bien faire donner la victoire aux nombreux, comme aux peu nombreux. Kiloberov Ail Nitzachon Amilchama, Uminashamaim Agevura. Ce n'est pas le nombre des combattants qui fait la guerre. En Baim Elenu Berov Gaava, Ve Pesha La Hashmidotanu. Ils viennent nombreux, pleins de fierté, d'orgueil. Ils viennent pour nous détruire. Ils viennent pour s'attaquer à nos femmes, à nos enfants. Et nous, on se bat pour nos vies, pour notre Torah. Et Dieu nous aidera à les détruire. N'ayez pas peur d'eux. Kacher, qu'il a les daber, nafal aleem, pitom, v'innagev sirom, ou machaneh ou lefanav. Et quand il a fini de parler, les combats ont commencé. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin de ce combat contre Siron? On les a éclatés. Le combat de Beth-Horon a été une victoire fantastique où Yehuda, avec 800 hommes, 800 hommes avaient réussi à battre les 10 000 hommes de Siron. Timoul Rabim, parce que nous, on sait pourquoi on se bat. Enfin, lui, il savait pourquoi on se bat. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on se bat? Si Mordechai, il est capable de faire des tralouides pour nous protéger, c'est ce qui se passe en exil. Yehuda, lui, vient nous dire, mais il faut, pour pouvoir gagner, savoir pourquoi on se bat. On se bat pour notre identité, et on se bat pour notre Torah, on se bat pour Am Israël. Nos soldats, ils savent aujourd'hui pourquoi ils se battent. Des fois, j'aimerais bien que nos dirigeants, ils s'en rappellent aussi. Mais nos soldats, eux, ils savent. Alors les amis, maintenant qu'on a dit ça, on est quand même obligé d'être réel et on sait qu'à un moment donné dans l'histoire, après la grande victoire de Hanouka, eh bien va arriver la destruction de Rome. Et lorsque le peuple juif va en être à sa destruction face à l'Empire romain, j'aurais pu marquer ça le 2 suivre survivre à la destruction après la destruction de Babylone. Mais encore une fois, on s'est relevé rapidement. Il y a eu le deuxième temple. Et puis après la destruction du temple. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à la destruction? Eh bien, les amis, nous avons un homme dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. Son tombeau qui est juste ici devant vous en photo. Rabban Shimon ben Gamliel, Nessi à Sanhedrin. Il est le chef du Sanhedrin à l'époque des combats contre les Romains. Et lui, il dit, il faut se battre au nom de Dieu. Ukshetafso, et Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Ishmael Leareg. Aya Rabban Shimon ben Gamliel, Yoshev, et Toé, Bedaato, Omer, Oi Lanu, Shanachnu Neragin, Kemechalel Shabbatot, ou Keordea Rodazara, ou Kemegalarayot, ou Keshofedamin. Rayou mitchanenim le askapalto, contre face aux Romains qui étaient face à eux. Zéamar, Ani Cohen, Ben Cohen Gadol, Aragani Techila, Zéalere Ben Mitat Haveri, Zéamar Lo, Ani Nassi Ben Nassi, Aragani Techila, Zéalere Ben Mitat Haveri, Amar Laem, et Pilou Goralot, Zé Pilou Benafala Pour Al Rabban Shimon Ben Gamliel. מיד נטל החרב וחתך את ראשו. ונטלו רבי שמעון רבי ישמעאל בן אלישע והניחו בחיקו, והיה בוכה וצועק, פה קדוש, פה נאמן, פה קדוש, פה נאמן, פה שמוציא סנדלפונים טובות ואבנים טובות ומרקליות, מי התמילך באפר ומי שמילה לשון לך אפר ואפר, עליך הכתוב אומר, חרם אורי על רועי ועל גבר אמיתי, אמיתי, ולא הספיק לגמור הדבר עד שנטלו החרב וחרקו את ראשו. Un texte très dur d'Avot de Rabbi Nathan qui voit la mort de Rabban Shimon ben Gamliel et de Rabbi Ishmael. Mais Rabban Shimon ben Gamliel, qui est tellement, même au moment de sa mort, qui veut les Kadesh Shem Shamaim, Rabban Shimon ben Gamliel était un des membres des Zélotes. Il faisait partie des Canaïm qui se sont battus contre les Romains. Il est le chef de la Torah et pourtant il dit qu'il faut prendre les armes contre les Romains. Parce que c'est l'honneur d'Israël et l'honneur de Kadosh Baruch Hu qui est en jeu. Ah, et ce qui s'est passé il y a 2 mois pour nous, c'est Khilul Hashem Gadol. Donc on doit ramener l'honneur d'Israël, être prêt à se battre pour l'honneur d'Israël et l'honneur de Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu? Lorsque le combattant a été vaincu. Alors, chez Rabban Shimon Gamliel, tu as été vaincu, tu as été malheureusement mis à mort. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mis à mort, comme Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph. Et à partir du moment où il a été vaincu et qu'il est ramené comme esclave à Rome, oui, car il ne faudrait pas oublier qu'il est esclave à Rome, même si c'est un esclave de luxe, c'est un esclave quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va écrire l'histoire d'Israël, l'histoire des combats. Écrire pour ne pas oublier. Écrire pour garder un semblant d'identité. Dira Antek Zuckerman, un des survivants de la révolte du ghetto de Varsovie, il dira, nous n'avons pas fait cela, il écrira cette phrase, nous n'avons pas fait cela pour vaincre l'armée allemande, mais nous avons fait cela pour laisser 3 lignes sur nous dans les livres d'histoire, pour que l'humanité sache que le peuple juif n'a pas totalement baissé la tête. Flavius Joseph racontera l'histoire du peuple juif. Et il dit à sa père, Bediouk Rav, c'est-à-dire, et Maasé Shenat Zedim, אך הלשון שיבחר בה לתאר אותם תבטא את מזגי ותאפשר לי לקונן על אסונות עיר מולדתי, עיר ריב מבית. רבי ג'וזף אלה פור רפלה אומונד ליסטואר דו פאפל ג'וויף. Alors, Bodaï, une fois qu'on est au fin fond de la destruction, eh bien, il y a une volonté de se révolter, la volonté de continuer le combat, de retrouver notre identité. En fait, que Shimon Bar Korva a essayé de faire, c'est ce que Yehuda Maccabi avait réussi à faire. La révolte des Maccabées contre les Grecs, ça a réussi, c'est fantastique. Mais la révolte de Bar Korba, c'était ça aussi. Est-ce que Bar Korba avait les mêmes idéaux que Yehuda? Alors non. Yehuda, alors qu'il dit « Akadosh Baruch Hu nous amènera la libération », eh bien Bar Korba lui dit à Dieu « N'interviens pas, laisse-nous gérer ». Certains ont pris ça comme étant une révolte contre Dieu. Ou alors, il est seulement là en train de dire on en a assez, on a assez essayé de se remettre que à toi. On veut agir. On veut agir, Ribono Shel Olam. Comment je sais que Bar Korba n'est pas révolté contre Dieu? Bien, la première chose, c'est que Rabbi Akiva continue à le soutenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé des parchemins, des lettres de Bar Korba, qu'il envoie comme la lettre que je vous ai montrée ici, qu'il envoie à En Gedi, dans laquelle il ordonne au village de En Gedi de donner suffisamment de loulavim et de etrugim pour la fête de Sukkot pour les soldats d'Israël. On voit que c'est quelque chose qui est important dans la aspaka, dans le fait qu'il ramène ce qu'il faut pour les soldats. Il y avait de la nourriture, il y avait ce que tu veux, mais il n'a pas oublié de dire pour ramener loulav et etrog, des Sukkot. Quelqu'un qui serait révolté contre Dieu, je ne sais pas s'il aurait pensé à ramener loulav et etrog. Amro, 12,000 zugim talmidim ayu lo lerabi Akiva. Megivat ad Antipatres, et kulam metu beperek echad mipnei shelo nahagu kavod ze bazeh. Vous savez, c'est la fameuse Gemara dans les Bamot qui parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais où étaient les élèves de Rabbi Akiva? Où sont-ils morts? Alors on sait qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres, mais ils sont morts où? Ils sont morts à la guerre de Bar Korba, comme c'est marqué noir sur blanc dans la guérette de Rabbeinu Shlira Gaon. Donc même dans l'exil, on essaie de survivre en se révoltant et en retrouvant notre identité. Des fois, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, après la défaite de la grande révolte de 66 à 70, de la révolte de Bar Korba de 132 à 135, eh bien, le peuple juif est obligé de vivre au fin fond de l'exil. Mais est-ce qu'au fin fond de l'exil, on aura oublié complètement, encore une fois, notre identité? Regardez cet homme. Shmuel Anagid, qui était le grand vizir de Grenade. Il était le chef d'état-major des armées de Grenade. Mais il était aussi Dol à Mefarshim. Il était parmi les plus grands des Rishonim. Il a écrit des Piyutim, on veut dire en voilà. Il écrit sa dernière lettre. Ani ozev otra Grenada, שהייתיה לסמל של עוז, של שלום ושל אחווה בין מוסלמים, נוצרים ויהודים, שלא ישכחו בני האדם איך חיינו ביחד בתור הזהר. Nous dit Shmuel Anagid, quand c'était moi le patron de Grenade, j'étais le grand vizir, j'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait shalom. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, quand c'est Am Israël qui gère, il y a shalom. Quand ce n'est pas Am Israël qui gère, nous, ben mais. Aïe. Mais qui sort? Qu'est-ce que le bonnet, je vous dis? Il paraît que nos femmes, elles sont plus intelligentes que nous, elles ont plus de névoie que nous. Donc, je ne dois pas comprendre quelle est la grandeur derrière la cuisine du dimanche matin de 9h38 du matin. Je gagnerais que je ne suis pas au niveau pour comprendre. Mais enfin bon, pas très grave. Joanna Lagüide, au fin fond de l'exil, on est au 10e siècle. Mais il devient le chef d'état-major qui réussit à amener la paix entre les peuples en faisant la guerre. Il a fait la guerre énormément, Joanna Lagüide. Mais il a réussi par son charisme et sa force de faire en sorte que les différentes peuplades qui étaient à Grenade, eh bien, arrivaient à vivre ensemble. Alors, Joanna Lagüide, lui, il était combattant. Il avait des responsabilités politiques. Qu'en est-il de Rabbi Moshe Ben Maimon, quelques 150 ans plus tard? Ben, tous ceux qui me suivent, on étudie en ce moment tous les matins les Hilchot Melachim, les lois sur les rois et les guerres du Rambam. Car le Rambam a une vision politique de la Halakha. Il ne se contentera pas d'Hilchot Shabbat. Il fera également Hilchot Milchama, Hilchot Medina. Au fin fond de l'exil, on pense à comment on va recréer un pays politique. Il sera également le médecin et le conseiller de Saladin qui permettra aux Juifs de revenir à Jérusalem. Peut-être parce que son médecin, c'était le Rambam. Shalosh mitzvot nitzavu Yisrael b'shat knisatam la'aret alemanot lahem melech shenemar tzom tatzim alecha melech ולהכחיד זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה, שנאמר ולשכנו תדרשו ובאתה שמה. ודיל הרמב״ם, alors qu'il aurait pu se contenter comme le Shulchan Aruch, d'avoir une vision halakhique exilique, nous dit le Rambam, non, on va avoir également une vision de quand on reconstruira notre État, notre armée, et on saura comment faire la guerre à ce moment-là. Au fin fond de l'exil, on réfléchit à l'après. Et puis des fois, on est obligé de se cacher. De se cacher pour pouvoir se préserver et grandir après. Je parle de Don Carlos Carniero, qui n'était autre que l'amiral en chef de la flotte portugaise. Complètement marane. Complètement caché derrière une croix chrétienne. Secret, le dirigeant de la communauté juive cachée des Maranes, il va réussir à faire échapper une grande partie des Juifs du Portugal vers le Brésil, où ils pourront retrouver leur identité juive. L'acquisition espagnole. Se cacher pour se préserver. Don Carlos Carniero. Et voilà ce qu'il écrit, Don Carlos, à son maître, Rabbi Menaché Ben Israël. בספרד העמדתי פניי נוצרי, כי חביבים הם החיים, אך מעולם לא עשיתי זאת היטב, וכך נתגלה שלא הייתי אלא יהודי. שם מול פני הסכנה של אובדן החופש, הכבוד והרכוש ואף החיים, הייתי לאמיתו של דבר יהודי ונוצרי רק למראית עין. J'ai jamais abandonné mon identité, et au contraire, je suis resté un juif fier qui a réussi à faire sortir des centaines de juifs du Portugal pour finalement arriver au Brésil et retrouver leur identité. Des fois, en exil, on n'a pas le choix que de se cacher pour se préserver. Ça aussi, c'est de la gvoura. Mais ben attention, y en a qui ne sont pas prêts à se cacher. Il y en a comme Rabbi Shmuel Palachi, le chef des pirates juifs des Caraïbes. Oui, vous m'avez bien compris. Un pirate. Un pirate avec sur sa tombe la tête de mort des pirates. Et marqué en hébreu, cet homme qui sur son bateau, qui ne vogue pas le Shabbat, qui a deux cuisines sur son bateau, et qui va se battre contre tous les navires espagnols pour leur faire payer l'expulsion des Juifs d'Espagne. La revanche de Rabbi Shmuel Palachi, le pirate juif. Rabbi Shmuel Palachi, Rabbi Menaché Ben Israël, ces gens qui ont compris qu'ils sont en train de reconstruire l'exil. La fin de l'exil, c'est ça. Ils sont en train de reconstruire le réveil identitaire. Alors, les amis, on y va. C'est parti, quatrième partie. Le réveil identitaire. Don Joseph Nassi et Donna Grazia Nassi, le duc de Naxos et sa tante, qui, en tant que chef du gouvernement de l'Empire ottoman, vont racheter Tibériade, l'exonérer d'impôts pour ramener les Juifs là-bas, ramener les rabbins là-bas, faire en sorte de créer une autonomie dans la Galilée. C'est le début de la résurrection. Les hommes politiques qui ont décidé de mettre en place le début de la résurrection identitaire. Rabbi Yehuda Hassid, Rabbi Yehuda Hassid qui, contre toute attente, rassemble 1500, enfin non, à la base, il rassemble 3000 juifs de Pologne, d'Ukraine, d'Europe de l'Est. Et il décide de traverser le monde pour venir à pied jusqu'en Eretz Israël. Parce que c'est là-bas que leur retour va s'opérer. Finalement, il y en a beaucoup qui mourront en chemin et vont arriver en Eretz Israël, 1500 personnes. Ils arrivent tous à Jérusalem. Et en un instant, ils doublent le nombre de juifs dans la ville qui était de 1200 juifs avant l'arrivée de Rabbi Yehuda Hassid et ses hommes. Ça redonne du punch à la Jérusalem juive. Bon, malheureusement, Rabbi Yehuda Hassid, qui construira la synagogue de la Chourva, que vous voyez ici en image, eh bien, mourra 3 jours après l'inauguration de la synagogue. Mais le retour était amorcé. Évidemment, avec des hauts et des bas, mais le retour était amorcé. אסור לו ליהודים ממדינתנו, מפולין או מארצות אשכנז אחרות להיכנס לירושלים, אלא אם כן הוא מלובש במלבושי תורג'מה. זאת אומרת, ספרד, הוא מדבר בלשון תורג'מה, ערבית, עד שאין יודעים בו שמאשכנז הוא, וכל זאת בגלל מעשה חבר החסידים שעלו עם רבי יהודה החסיד השני. Les amis, de quoi on parle? Rabbi Yehuda Hassid, lorsqu'il meurt de manière brusque, les Juifs qui sont venus avec lui, qui ont construit la Chourva et qui ont emprunté de l'argent aux Arabes, ne sont pas capables de leur rendre l'argent. Et donc les Arabes vont brûler la synagogue, ils vont interdire aux Juifs ashkénazes, tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes, de venir habiter à Jérusalem. Et donc, pour que les Juifs ashkénazes puissent habiter à Jérusalem, ils devront s'habiller comme des Juifs séfarades qui, eux, n'ont pas de dettes envers les Ottomans. Et donc, c'est une période assez incroyable où c'est les Juifs ashkénazes qui se sont habillés en séfarade et qui ont parlé en arabe pour pouvoir habiter à Jérusalem. Bon, le réveil, c'est bien, mais la résurrection nationale, mieux. Alors, comment ça commence? Nous devons lui rendre hommage à cet homme-là. Je pense qu'on ne lui rend vraiment pas assez hommage. Au baron Binyamin Edmond de Rothschild. Parce que Enmala Assot, vous pouvez me la jouer comme vous voulez, mais celui qui a rendu tout cela possible, c'est lui. Et je pense que toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, qui n'ont pas encore été une fois dans leur vie sur la tombe du baron de Rothschild, pour aller lui dire merci, eh bien, je pense qu'il faut le faire. Mamash. En plus de ça, c'est un très joli tioul parce que le tombeau du baron de Rothschild, Gan Hanadiv, c'est assez magnifique. Mais, franchement, on doit lui dire merci. C'est grâce à lui tout ça. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Tous les points rouges, c'est les terrains que Rothschild a achetés et qu'il a construits là-bas des villages. Vous savez, je me suis rendu compte. Mais il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'État d'Israël s'il n'y a pas le baron de Rothschild 50 ans avant. Il faut en être conscient. Et c'est quelqu'un qui a été un actif dans la résurrection nationale. Certes, pas avec les armes, mais avec le chéquier. Et il y en a plein d'autres qui ont des chèques. Mais est-ce qu'ils les font pour la bonne cause? Le baron de Rothschild, oui. Ah, il y a notre Johnny Hallyday à nous. Ouais. Vous rigolez pas. Il s'agit d'un rabbin qui est sur une moto. Alors d'abord, ça ne veut rien dire parce que à l'époque du rabbin, il n'y avait pas de moto. Pas expliquer pourquoi les habitants de Petah Tikva sur le kikar de l'entrée de la ville l'ont représenté non seulement sur une moto, mais vous ne voyez pas, mais derrière lui, il y a des ailes. Genre, c'est vraiment un biker. C'est vraiment un pote à Johnny. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est pas sur une moto qu'il se baladait, c'était sur un cheval avec son arme. Et il est venu construire Petah Tikva. C'est lui, Petah Tikva, les amis. Alors qu'il voulait construire d'abord un Petah Tikva à côté d'Yéricho, finalement, ce n'est pas possible. Donc, il va le construire à Petah Tikva. Et il va construire une ville dans un marécage où tout le monde lui dit que ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, Petah Tikva est la quatrième plus grande ville d'Israël. Ou comme Moshe Amarti, dit Rabbi Yoel Moshe. Ou comme Moshe Amarti, Bebet HaKnesset, Tach Asinu. Banu Rechuvim al Susim. Im rovim mouchanim velo natanu la poroim lignov lanu et admaten. Oui, car au moment où il construit, eh bien les Arabes de la région viennent à chaque fois les attaquer. Et dit Rabbi Yoel Moshe, nous on s'est mis sur nos chevaux avec nos armes et on ne les a pas laissés nous voler notre terre. Et aujourd'hui, il y a Petah Tikva. Voilà les amis, la résurrection nationale. Zev Jabotinsky, les brigades juives, il est temps de réapprendre aux juifs à être des soldats. Pas seulement des individus avec une arme, mais des soldats. Et il va construire la Brigada Yehudit, les brigades juives qui vont servir dans l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale. Et il va créer la charte du Bétard. Ani makdish et chayai. לתחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן, קדמה וימה. D'abord, je vais donner toutes mes forces à créer un État juif. לתועלת הבניין הממלכתי, אשעבד את תועלתי אני, את תועלת ביתי, את תועלת מעמדי. Je mettrai tous mes efforts au service du bien commun, de l'État, et pas de ma petite personne. השפה העברית תהיה שפתי ושפת בני, בני עם ישראל, סליחה, בארץ והם בגולה. זאת אומרת, je parlerai hébreu, comme ça que je retrouverai mon identité. אכין זרועי להגנת עמי ולכבוש מולדתי. Je préparerai mon bras pour la défense de mon peuple et la conquête de ma terre. C'est pas rien, les amis. C'est pas brun, c'est pas rien. Et puis il y en a un autre que vous connaissez peut-être. Il s'appelle David Green. Enfin, plus connu sous le nom de David Ben Gurion, qui va dire cette phrase. Le Picha, net kanaf no. Ano, avre moet set aram netzige yishur ha'ivri v'atnua tzionit. Biyom siyum ha'mandat ha'briti al eretz Yisrael. ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. רבותיי, דוד בן גוריון. La résurrection nationale. Les amis, c'est à l'histoire des héros d'Israël. בימים ההם ובזמן הזה. Il y a eu Moshe Rabbeinu, il y a eu Yehuda Maccabi, et il y a nos soldats extraordinaires qui, tous les jours, nous montrent que c'est que la Emouna, que c'est que la grandeur, que c'est que la Kdusha. Et en les voyant, eh bien, ça nous donne de la force. Et quand on les verra allumer les Chanoukiot énormes dans la bande de Gaza, après avoir inauguré la première synagogue, Beit Hana, dans le quartier de Beit Hanoun à Gaza, vendredi, eh bien, on pourra tous se réunir autour de l'allumage des lumières de l'espoir, des lumières de la victoire. Bechag Hanouka, dans la bande de Gaza, Bimera Beyamenu. Amen.